Il est 5h30 à Niamey et Kinshasa, 4h30 en temps universel. Le journal consacré à l'actualité africaine, c'est avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une ce matin, Apple accusé d'utiliser des minerais du sang.
Des minerais qui seraient extraits illégalement du sous-sol de RDC avant d'être blanchis et vendus par le Rwanda. C'est l'accusation lancée par le gouvernement congolais. Ses avocats mettent en demeure le géant américain. Le départ de la MONUSCO qui se poursuit en RDC. Une nouvelle base remise hier aux autorités congolaises au sud Kivu. La base de Kavumu, libérée par les casques bleus pakistanais qui l'occupaient depuis 21 ans. La campagne électorale qui se poursuit au Tchad, également dans ce journal. Tout comme les attaques et les rumeurs dont les États-Unis sont la cible en Centrafrique. Un audio incrimine actuellement un diplomate américain sur les réseaux sociaux. L'ambassade à Bangui dément formellement. Et puis, rattraper le retard vaccinal à Madagascar, objet d'une grande campagne qui sera lancée aujourd'hui sur la grande île. Elle devrait durer un an. La firme à la pomme affirme n'avoir aucune base raisonnable pour dire que sa chaîne d'approvisionnement a directement ou indirectement financé les groupes armés en RDC. Mais c'est en tout cas l'accusation lancée par le gouvernement congolais. Apple utiliserait donc des minerais exploités illégalement dans les mines de l'Est du pays au prix de graves violations des droits de l'homme et au bénéfice ensuite du Rwanda qui blanchirait ces minerais avant de les exporter sur le marché international. Kinshasa a ainsi mandaté des avocats pour mettre Apple en demeure, son siège en Californie mais aussi deux filiales en France. À Paris, c'est notamment maître William Bourdon qui a été chargé de ce dossier.
Tout le monde sait que dans cette zone largement contrôlée par des milices armées, dans bien des secteurs contrôlés par le Rwanda, au bénéfice du Rwanda, se commettent des crimes d'enrôlement d'enfants, de transfert forcé de population, des exactions, des crimes de sang, des crimes qui pourraient relever de la Cour pénale internationale. C'est le pire qui se commet en amont de cette chaîne de fabrication. Il y a en creux décalage entre le dispositif que prétend avoir mis en œuvre Apple pour s'assurer d'une origine, entre guillemets, propre, éthiquement responsable de ces minerais stratégiques, et la réalité. Et on dit évidemment à Apple qu'on se réserve toute voie de droit, c'est-à-dire que toutes les options judiciaires sont sous la table. Et cette interpellation d'Apple sera évidemment suivie d'autres initiatives. Et ce n'est que le prologue d'une volonté de faire en sorte que ces minerais soient exploités au mieux des intérêts de la population de l'RDC, et sans que ça se fasse au prix de la commission du pire. Ceux qui commettent le pire sont parfois ceux qui s'enrichissent aussi le plus de l'exploitation de ces minerais.
Maître William Bourdon, contacté par Arthur Ponchelet. Dans l'est de la RDC, justement, au sud Kivu, une nouvelle étape dans le retrait de la MONUSCO, la plus vieille des missions de maintien de la paix de l'ONU. Après la restitution des bases de Kamanyola, d'Amsar et de Bunyakiri, c'est cette fois la base de Kavumu, près de Bukavu, qui a été remise aux autorités congolaises par les casques bleus. Les éléments pakistanais déployés sur place depuis 21 ans ont donc plié bagage. Notre correspondant William Bassimike a assisté à la cérémonie qui était organisée pour l'occasion.
Lorsqu'elle s'est adressée à la centaine des casques bleus présents à la cérémonie, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a reconnu l'importance du contingent pakistanais au sud Kivu.
Plus de 4000 opérations ont été menées au sud Kivu par le contingent pakistanais pour sécuriser la population. Le contingent a contribué efficacement pour dissuader et combattre les activités des groupes armés dans leur zone d'opération et assurer la sécurité des populations locales.
Bintou Keïta ajoute qu'environ 50 000 déplacés regroupés dans 12 sites ont trouvé refuge près des différentes bases de la MONUSCO, notamment à Mikenge. En présence du général Yavavoul Robert, commandant des FRDC au sud Kivu, le ministre provincial des infrastructures, Gaston Sissawanumbe, a expliqué que les bâtiments laissés vacants par les contingents de la MONUSCO seront mis à la disposition de l'armée congolaise. Il a par ailleurs formulé une requête auprès des Pakistanais.
Nous espérons que vous continuerez à plaider la cause de la RDC au sein des concerts des nations et qu'un jour, on arrive à identifier et à sanctionner conséquemment toutes les autres forces visibles et invisibles qui participent sans relâche aux côtés du Rwanda du M23 à la déstabilisation, à la destruction et au pillage des ressources de notre pays.
Au cours de la cérémonie, des hommages ont été rendus aux 31 soldats pakistanais qui ont perdu la vie durant leur mission en RDC. William Bassimike, Bukavu, RFI.
Le bilan qui grimpe au Kenya après les inondations qui ont frappé le pays cette semaine. Au moins 38 morts sont à déplorer selon la Croix-Rouge. L'est du pays, mais aussi la capitale, Nairobi, ont essuyé des pluies diluviennes cette semaine. Des précipitations anormales qui sont liées notamment à El Niño, ce phénomène climatique venu de l'océan Pacifique. El Niño qui serait à l'origine d'un lourd bilan également en Tanzanie. 155 personnes seraient décédées là-bas en raison des fortes pluies. Bilan communiqué hier par le Premier ministre Kassim Majaliwa devant le Parlement. Il ne donne pas de date cependant sur ce bilan. On ne sait pas depuis quand ces personnes sont décédées. Mais au total, lors de ces intempéries en Tanzanie, ce sont plus de 51 000 foyers et 200 000 personnes qui ont été touchées. 12e jour de campagne électorale hier au Tchad, en amont de la présidentielle du 6 mai. Rendez-vous important qui refermera le processus de transition, mais dont l'issue semble laisser peu de place au doute, selon les observateurs. Après avoir dirigé la transition, Mahamat Idriss Déby est candidat. Il brigue la présidence pour marcher dans les pas de son père décédé en 2021. Et il a l'air convaincu de l'emporter, c'est ce qu'il a martelé hier encore lors de son 10e meeting organisé à Mundu, la capitale économique tchadienne dans la province du Logone occidental, où notre envoyé spécial Olivier Monodi s'est rendu également.
C'est sous un vent poussiéreux et un ciel orageux que Mahamat Déby est apparu au stade Omnisport de Mundu, encore en construction. Après avoir présenté son projet de société orienté sur l'économie et sur le développement local et la jeunesse, Mahamat Déby s'est dit certain de sa victoire dès le premier tour.
Est-ce que je ne suis pas un candidat solide? Est-ce que je ne suis pas un candidat populaire? 22 partis politiques de l'Ogone occidental me soutiennent. Rien à dire, je n'ai pas peur. Il n'y a pas match.
Il a appelé ses militants à la retenue face, je cite, aux provocations de ses concurrents.
Je vais aller dormir tranquillement, sans faire de bruit. Mais surtout, n'oubliez pas les consignes du directeur national de la coalition pour un Tchad uni. C'est très très important. Il ne faut pas provoquer. Et s'il vous provoque, ne tenez pas compte. Continuez à sensibiliser, à partager mon projet de société.
Pendant ces temps, le candidat Théophile Bongoro, lui aussi en campagne dans le Sud, et aussi la délégation du groupe de concertation des acteurs politiques GCAP, qui prône le boycott, affirme avoir été brièvement bloqué à l'entrée de Mundu par les forces de sécurité, en raison du meeting du président candidat. Olivier Monodi, Mundu, RFI.
La guerre de l'information en Centrafrique, où s'affrontent aujourd'hui les intérêts de grandes puissances. Les États-Unis tentent notamment de regagner du terrain face aux Russes. Et les États-Unis essuient en chemin de nombreuses attaques et de nombreuses rumeurs. Depuis plus d'une semaine, circule par exemple sur Internet un audio qui établirait un lien financier entre un diplomate américain et un leader de la société civile ayant récemment organisé une manifestation contre les délestages. Un audio relayé par les médias proches du Kremlin, François Mazet, mais qui serait un faux, à en croire l'ambassade américaine ainsi que l'activiste également visé.
Il est faux qu'un diplomate américain, quel qu'il soit, ait eu des conversations sur le soutien aux manifestations. L'ambassade ne finance pas les manifestations et n'apporte pas de soutien financier aux partis politiques. La mise au point de l'ambassade, qui communique rarement, fait suite à la diffusion d'une prétendue conversation entre l'universitaire Paul Cresson Beninga, du groupe de travail de la société civile, et un dénommé Pedro Campobue, conseiller économique américain. Dans cet échange, la personne présentée comme le porte-parole du GTSC se dit prête à mobiliser prochainement 10 000 personnes en échange de 12 millions de dollars et 15 000 bouteilles d'eau. Or, la voix utilisée ne correspond pas à celle de Paul Cresson Beninga, qui dénonce la bêtise de ceux qui inventent de toutes pièces. Il précise qu'un faux compte WhatsApp et un faux numéro de téléphone avec sa photo sont actuellement utilisés pour lui nuire. Quant au diplomate américain, s'il parle français, il ne s'agit absolument pas de sa voix, affirme quelqu'un qui le côtoie. Mais le mal est déjà fait, le faux audio a été diffusé par de nombreux comptes, pages et médias liés au réseau de désinformation russe en Afrique. Ils attribuent même la fuite de la conversation à l'opérateur Orange, en lien selon eux avec le ministère français de la Défense.
Les explications de François Mazet. Le général américain Ken Heckman, justement, toujours à Niamey pour sa part aujourd'hui, le directeur de la stratégie du commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'Africom. Il évoque sur place l'éventuel retrait des forces américaines du Niger, accompagné de l'ambassadrice américaine Kathleen Fitzgibbon. Il a entamé hier des discussions avec les autorités militaires nigériennes pour discuter, je cite, d'un retrait ordonné et responsable des forces américaines. Les États-Unis qui espèrent que la fin de l'accord de défense ne signera pas la fin de toute coopération avec le Niger. Un grand rattrapage vaccinal national en passe d'être lancé aujourd'hui à Madagascar. Une campagne prévue sur un an, financée par des organisations internationales pour tenter de combler un retard alarmant. En 2024, plus d'un million d'enfants malgaches, aujourd'hui âgés de moins de 5 ans, n'auraient jamais reçu aucune dose de vaccin depuis leur naissance. Alors, cette campagne est portée notamment par l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'Enfance. À Antananarive, Sarah Tetto.
Madagascar n'est pas le seul pays à avoir enregistré une si forte baisse de vaccination de ses enfants. Pour expliquer cette situation particulièrement inquiétante sur l'île, les experts en santé citent une combinaison de facteurs. Le Covid, qui a quasiment mis les campagnes vaccinales à l'arrêt, l'accès difficile à certaines zones dans le pays, le coût des vaccins, la natalité importante et une certaine résistance culturelle à l'administration des vaccins. Des facteurs qui ne doivent pas, selon Etleva Kadili, la représentante régionale de l'UNICEF, faire oublier l'essentiel.
Tout ceci est très regrettable. C'est pour cela que nous devons accélérer nos efforts pour atteindre les enfants dits zéro dose. Plus il y a d'enfants non vaccinés, plus nous risquons d'avoir des épidémies de rougeole, de polio et d'autres maladies.
Les autorités espèrent atteindre plus de 900 000 enfants grâce à cette campagne, mais au-delà de cette stratégie dite de rattrapage, c'est surtout le système de santé qui doit être reconsidéré.
Je pense qu'il faut renforcer le système de soins de santé primaire et son accès. C'est la seule façon, selon nous, de faire face à la situation des nouveau-nés et de l'immunisation de tous. Dans les pays à revenus moyens, les progrès sont beaucoup plus rapides parce que les investissements dans le secteur de la santé, de l'eau et de l'assainissement sont plus importants, y compris dans l'éducation. Donc, nous devons considérer la santé à travers une approche multisectorielle.
Les bailleurs ont également déjà annoncé être prêts à soutenir le gouvernement pour améliorer la vaccination de routine et empêcher la transmission de maladies facilement évitables. Sarah